exclusivité sur Scuba People, le mag. Bienvenue dans la Dive Bubble, un podcast avec des interviews, des invités, des discussions. Un rendez-vous immanquable. Un ton, de l'humeur, de l'humour, de l'amour, toujours. Une réflexion sur notre univers par un plongeur passionné avec 30 ans d'expérience. Parce que quand même, faut pas déconner. Bienvenue dans la Dive Bubble, je suis Chris Chalapermal, votre hôte. Il y a peu d'endroits comme La Réunion où un animal crée de violents débats et discussions au sein d'une communauté qui se divise. Nous parlerons donc aujourd'hui d'hommes et de requins. Pour en parler, je reçois aujourd'hui trois invités. Anne Ramos, elle partage sa passion sur son blog, mais a aussi créé une marque d'habits éco-responsable. Nous recevons également Sophie Paloum du collectif Contre la Pêche qui se bat pour les requins à La Réunion sur les réseaux sociaux. Et enfin, Thomas Vigneault, un biologiste marin qui s'est spécialisé dans le tourisme et le comportement des requins. Anne, Sophie et Thomas, bonjour.
Bonjour.
Anne, depuis combien de temps as-tu créé le blog Dans nos bulles ?
Alors, j'ai commencé ça en amateur complet, hein, puisque moi, j'ai commencé la plongée sur le tard. J'avais la quarantaine bien tassée. Donc, tu vois, je ne suis pas une experte en plongée au départ. J'avais juste envie de partager mes sensations. C'était en 2016. Donc, voilà, ça fait 4 ans.
Et d'où c'était venu cette envie, en fait, de créer un blog et de parler de plongée et du monde de la mer,
en fait. Eh bien, je me rendais compte qu'en fait, il y avait beaucoup de personnes expertes dans le domaine de la plongée, mais finalement, peu de néophytes qui avaient envie de partager un peu leurs sensations, leurs doutes, leurs craintes. Donc, moi, j'avais juste envie de parler. Donc, comme j'aime bien écrire, je me suis lancée dans le blogging. Et puis, petit à petit, en fait, il y a eu de plus en plus de gens qui se sont intéressés à mes articles. J'ai vu qu'on pouvait échanger et finalement partager des doutes, des peurs et puis des points de vue. Hein, et puis, voilà. Et puis, de fil en aiguille, on a beaucoup, beaucoup plongé avec mon mari un peu partout dans le monde. Et là, on a eu envie de s'engager un peu plus avant dans l'écologie et dans la défense de l'environnement. Voilà. C'est un peu l'objectif du blog.
D'ailleurs, tu as créé aussi, en plus du blog, une marque d'habits éco-responsables qui s'appelle World Shaper. Tu peux nous en parler un petit peu plus ?
Ouais, ça, c'est une histoire de famille. Alors, avec mon fils et mon mari, c'est toujours très dans la cuisine, hein, mais ça fait rien. Ça démarre toujours comme ça. Et puis, finalement, on a monté cette boîte. Et le but étant de reverser 50% des bénéfices à des actions en faveur de l'environnement. Donc, on a cherché, évidemment, des supports qui soient compatibles avec la philosophie. Hein. Donc, on a trouvé une boîte qui, aujourd'hui, fournit 80% de tous les vêtements bio qui circulent sur le net. Et on a travaillé avec une société niçoise pour personnaliser nos vêtements et avec des jeunes graphistes qui nous font les dessins. Donc, ce sont des étudiants, ce sont vraiment des jeunes qui font ça par bénévolat pur. Nous-mêmes, on est des bénévoles. Hein. On ne prend pas un centime d'euro dans les vêtements qu'on lance. Mais petit à petit, on fait des capsules, on fait des partenariats. On en a fait un avec Scuba People, on est ravis. Et d'ailleurs, il y a des très jolis modèles qu'on vous invite à aller voir. Voilà. Et donc, on travaille comme ça avec des gens qui sont un petit peu passionnés ou par la plongée ou par l'environnement. Et on produit des t-shirts, des sweatshirts, des polos, des jogging. Enfin, c'est quand même des vêtements sportswear. Donc, c'est des choses qu'on peut mettre facilement pour aller sur des bateaux aussi, d'ailleurs. Donc, voilà.
Dans nos bulles, récemment, tu as interviewé Jean-Baptiste Galve de La Réunion. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est-ce que tu as rencontré JB et comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce podcast avec lui ?
Alors oui, parce qu'en fait, on a donc des groupes sur la plongée sur Facebook. Ça s'appelle donc Accro à la plongée. Et là-dessus, j'ai rencontré plusieurs plongeurs, dont un avec qui j'ai beaucoup d'échanges qui s'appelle Ropeco. En fait, François Ropeco m'a mis en contact avec JB à La Réunion. Et j'ai eu le plaisir de faire un podcast qui est d'ailleurs disponible sur Dans nos bulles. Avec lui parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement engagé dans la défense des requins à La Réunion. Bon, il m'a dit énormément de choses qu'on a coupées au montage, mais ça fait rien. On a quand même fait une jolie interview où il m'a parlé un petit peu de cet engagement. Il travaille en lien avec Sea Shepherd, avec tout un collectif d'associations très engagées, parce qu'il m'a expliqué à quel point finalement les décisions qui étaient prises à La Réunion pour pêcher le requin, empêcher soi-disant des agressions, sont d'abord inopérantes et puis totalement hors de propos finalement. Et puis finalement, on se retrouve à pêcher des requins qui sont en voie de disparition et tout ça pour éviter soi-disant des accidents. Et c'est extrêmement voilà, aléatoire et pas du tout productif. Donc, c'est un peu le sens de son engagement. Et je crois que ça rejoint le thème de ton émission aujourd'hui.
Bah, tout à fait, justement. C'est d'ailleurs un peu pour ça aussi que je t'ai invité. Parce que c'est aussi intéressant d'avoir une plongeuse qui a un blog et qui n'est pas forcément complètement dans ce milieu-là, mais qui a aussi un point de vue et un regard sur cette histoire. Thomas, comment est-ce que... Il y a une question en fait que je me pose depuis toujours. Comment est-ce qu'on peut justifier en fait d'amener des appâts et de mettre des appâts près des plages, et comment est-ce qu'on peut se dire bah ça c'est une super idée, ça va empêcher les requins de venir près des plages. Enfin, pour moi ça me paraît complètement abject en fait. Je comprends pas la logique. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment certaines personnes peuvent penser que c'est une bonne idée?
Le but en fait c'est pas d'empêcher les requins de venir près des plages, c'est vraiment de les tuer. Et donc forcément, si on supprime les requins, ben, il n'y a plus de problème avec les requins. Donc c'est un petit peu ça la philosophie derrière. De la même façon que ça a été fait à certaines époques avec d'autres grands prédateurs terrestres. C'est assez logique si on y réfléchit de façon toute bête. On se dit, ben, il y a un problème, je supprime le problème. Et donc, il n'y a plus de problème. Sauf que la nature est parfois un petit peu plus compliquée. Et en particulier, les requins sont des animaux qu'on connaît finalement assez mal. Et comme Einstein le disait, si j'ai qu'une heure pour résoudre un problème, je passerai 55 minutes à définir le problème et les 5 dernières minutes à trouver la solution. Et c'est un petit peu ça le problème aujourd'hui, c'est qu'on se jette dans des prétendues solutions sans trop réfléchir et sans trop connaître la réalité des écosystèmes et des requins. Et au final, ça ne donne pas toujours de très bons résultats. Ça peut même empirer les choses assez facilement.
Parce que toi, en tant que plongeur, en tant que biologiste qui a déjà travaillé avec les requins et les bulldogs, quand tu les rencontres dans leur environnement, comment est-ce que tu perçois ces animaux?
Je pense que tout le monde est à peu près d'accord. Quand les conditions sont bonnes, c'est toujours des rencontres magiques. J'ai emmené plusieurs milliers de personnes plonger avec des requins bulldogs dans la nature sans cage. Et parmi ces milliers de personnes, il y en avait un certain nombre qui avaient très peur en fait de ces requins-là, qui avaient un a priori négatif. Parfois, malgré une compréhension intellectuelle qu'il n'y a pas de danger, il y a quand même des émotions, il y a quand même une peur qui est là et qui s'en va pas. Et pour les personnes qui décident d'y aller quand même, c'est des personnes avec qui on va peut-être tenir la main sous l'eau, s'approcher tout doucement, faire vraiment un effort d'y aller doucement, doucement, doucement. Et cette main serrée et crispée sur la mienne, elle se détend immédiatement à la vue des requins. Et en fait, d'en faire l'expérience, de vraiment être au contact de ces requins-là, ça modifie complètement la vision que les personnes ont des requins, et ils se rendent compte qu'il n'y a rien à craindre, en tout cas si on respecte un minimum certaines conditions de sécurité, quoi.
Moi, je sais qu'un de mes meilleurs souvenirs de plongée de requin, c'était aux Philippines chez un ami à moi. Anne, quel est ton meilleur souvenir requin? Quel est ton meilleur souvenir sous l'eau avec un requin?
Alors écoute, je l'avoue, j'ai un peu peur des requins. Donc si j'allais plonger avec Thomas, j'aurais sûrement la main crispée dans la sienne. Mais j'ai quand même fait quelques expériences, et notamment aux Philippines chez un ami commun, je pense. Meilleur souvenir, ça a été...
On peut parler de Pierre Lowe, hein, faut pas hésiter.
Ouais, voilà, Pierre Lowe du Seedors, on lui fait un petit peu de pub, surtout qu'en ce moment, ça doit pas être simple. Et en fait, on est allé donc comme ça, 3 jours d'affilée, sur des spots où on voit des requins renards. Et bon, c'est vrai que c'était super impressionnant, et c'était des plongées un peu profondes, mais on était là, on se posait, on attendait, on les voyait passer. Et ça démystifie, quoi, quand on les voit, déjà quand on est dans l'eau, ça n'a pas du tout la même, on n'a pas les mêmes sensations que quand on est à la surface de l'eau. Et voilà, donc moi, je suis pas du tout une experte, je suis pas une biologiste, je suis juste une plongeuse. Et le fait d'être dans l'aquarium, déjà, on les perçoit pas de la même manière. Et là, ma plus belle expérience, c'était ça pour l'instant. J'ai pas encore vu, j'ai vu des tigres, mais de loin. J'ai pas vu de bulldog, j'ai vu des marteaux. Les requins renards, j'avoue que c'était quand même une expérience très chouette. Voilà.
C'est un de mes préférés aussi. Et toi, Sophie, est-ce que tu as eu une expérience positive ou agréable avec les requins?
Bonjour tout le monde déjà. En fait, moi, j'ai eu la chance de vivre une dizaine d'années à La Réunion, d'aller me baigner tous les jours dans les lagons, en dehors des lagons, en pleine mer, et j'ai jamais vu de requin. Donc voilà, ma seule expérience vis-à-vis des requins est super négative, parce que J'ai eu le malheur directement de poser la question, mais est-il réellement nécessaire de tuer des requins pour protéger des plages? Parce que, en fait, moi, j'en ai jamais vu. Pourtant, je suis allée plonger, je suis allée faire beaucoup d'apnée à l'étang salé, en dehors du bassin pirogue, à la sortie de la passe de l'Ermitage, à Boucan, aux roches noires et tout ça. J'ai jamais vu de requins. J'aurais aimé, j'en ai jamais vu.
Et forcément, donc toi, Sophie, tu es contre la pêche et contre avec la page contre la pêche des requins. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que pour toi la pêche des requins à La Réunion ça n'a pas de sens?
Ben, en fait, déjà, je pense sincèrement que c'est pas en tuant des animaux sauvages qu'on peut se garantir de pouvoir aller se baigner dans l'océan en toute sécurité. L'océan, en tant que tel, c'est un environnement qui est à appréhender avec beaucoup de prudence, parce qu'il y a des tas de facteurs à prendre en compte quand on se met à l'eau, que ce soit pour faire du surf, pour aller plonger, pour aller nager. Et bizarrement, moi, je trouve ça complètement idiot d'exposer des appâts toute la nuit à côté des nageurs et des pratiquants en espérant attirer des requins pour les tuer, alors que quand on regarde ce qui se passe réellement dans le temps depuis ces 10 dernières années, bah, la pêche de sécurisation a commencé en 2013 à La Réunion. Donc depuis 2013, ils ont tué 500 requins, dont un requin blanc d'ailleurs, et majoritairement des requins tigres. Tout ça pour faire face à un constat qui est quand même bien malheureux. C'est depuis 2013, il y a quand même eu 15 accidents requins, dont 8 mortels.
Ouais, donc ça sert à rien cette pêche. Donc, elle n'est pas vraiment efficace.
Ça sert strictement à rien. Je pense que ça donne plus un faux sentiment de sécurité aux pratiquants qui veulent coûte que coûte pratiquer leur sport, consommer l'océan à tout prix au moment où ils le décident sans faire attention un petit peu à l'environnement et à tout ce qui s'y passe. Mais ça résout rien au niveau de la sécurisation, je pense.
Parce que le centre sécurité requin attrape des requins, mais il y a aussi des prises accessoires. Tu as certains chiffres, il me semble, Sophie, à partager.
Oui, en fait, le centre sécurité requin, donc on met en place le dernier programme de pêche dit de sécurisation depuis fin mars 2018. Et donc, pour pas dire de bêtises, je vais ressortir mes sources. Donc, depuis mars 2018, en fait, ils ont très exactement capturé. Donc ça, c'est les chiffres, en fait, officiels, qui sont sortis au mois fin août. Donc, en fait, qui tiennent compte des pêches de fin mars 2018 au 31 août 2020. Depuis, on n'a plus de nouvelles. Donc, en fait, globalement, ils ont attrapé 606 poissons. Dans tous ces poissons, ils ont attrapé 41 bulldogs, 165 requins-tigres et 400 prises accessoires. C'est-à-dire que, en fait, 69% des poissons qu'ils attrapent sont des animaux qui sont ni dangereux pour l'homme, ni agressifs et qui n'ont surtout rien demandé. Majoritairement, ce sont des animaux qui sont sur liste rouge IUCN ou en danger critique. Voilà, comme des requins marteaux. Il y a même eu des tortues. Comment ?
Qui supportent très mal le stress, d'ailleurs.
Qui supportent très, très mal le stress. D'ailleurs, ils ont attrapé plus de requins marteaux à licorne que de requins bulldog. Wow. Donc, c'est quand même hallucinant, quoi. À savoir que cette pêche, elle a quand même lieu dans la réserve marine de La Réunion. Donc, un espace qui est censé protéger la biodiversité marine. Et c'est incompréhensible, en fait, qu'un programme pêche subventionné par l'État puisse se développer autant, puisse avoir la possibilité de pêcher comme ça des tas d'espèces protégées sans finalement avoir de compte à rendre à qui que ce soit. C'est-à-dire qu'ils pêchent, ils pêchent, ils pêchent. Et on n'a pas notre mot à dire, personne n'a son mot à dire. C'est comme ça, et si on a le malheur de s'exprimer, ben on fait face à des tas de représailles.
On y reviendra un petit peu plus tard sur les représailles. Thomas, quelle est pour toi ta... Comment est-ce que tu réagis quand tu entends des chiffres comme ça sur la biodiversité requin et d'autres espèces en fait, qui sont ciblées par une pêche qui est inutile? Quel est ton ressenti là-dessus?
Je ne vais pas parler de mon ressenti parce que je pense que les sentiments n'ont rien à voir là-dedans et qu'il faut... je comprends bien ce que tu veux dire. Mais c'était pour clarifier que je pense que face à un problème aussi complexe que celui-là où y a des morts, y a une industrie du tourisme, alors en tout cas certaines personnes au sein du tourisme qui peuvent en pâtir, on est obligé de ne pas utiliser justement les émotions et les sentiments et d'utiliser des techniques scientifiques, des outils qui sont déjà bien définis et bien décrits depuis longtemps pour avoir finalement une analyse assez objective de la situation, réfléchir qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'il faut apprendre, qu'est-ce qui a été fait ailleurs et ainsi de suite. Quand on fait ça, on se rend compte que déjà les pêches aux requins dans un but de sécurisation, ça a déjà été testé dans le passé, dans d'autres pays, et ça n'a eu absolument aucun résultat. On se rend compte aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les statistiques mondiales, que tous les endroits dans lesquels il y a de la pêche aux requins sont également ceux dans lesquels il y a le plus de morsures de prédation, qui sont généralement les morsures fatales sur les requins. À l'inverse, les pays qui ont développé l'écotourisme et qui travaillent avec les requins, donc dans les pays comme les Fidji ou d'autres dans lesquels on voit beaucoup de requins bulldogs, on voit beaucoup de requins tigres et ce genre de choses, il y a quasiment aucun attaque, si ce n'est aucun attaque, si on regarde vraiment chaque morsure au cas par cas. Et donc, on se dit déjà, d'un point de vue historique et statistique et des données qu'on a, on se rend compte déjà que la pêche de sécurisation n'a pas l'air de quelque chose qui est intéressant. Ensuite, pour revenir sur les chiffres qu'a annoncé Sophie, elle dit que je crois que c'est 69% sont finalement des pas des prises accessoires, mais des animaux qui n'ont rien à voir finalement avec le problème homme requin. Moi, j'irais au-delà, je dirais que sans doute 99,99999% des animaux, y compris les requins bulldogs et requins tigres qui sont pêchés à La Réunion, sont sans danger, en fait, ne posent aucun problème. On se rend compte de plus en plus qu'il y a seulement certains requins bulldogs qui ont une condition, une expérience de vie particulière et une personnalité particulière, qui sont susceptibles d'être des requins à risque, et cette personnalité-là est révélée dans des conditions particulières. Donc, si on apprend à éviter les conditions les plus dangereuses et que on réfléchit peut-être à des solutions un petit peu plus respectueuses de la biodiversité, quand on réfléchit comme ça, on se rend compte en fait que la pêche aveugle n'a absolument aucun sens. Et j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment ça peut se faire en France quelque part. Si ça se passait dans un pays en développement avec une grosse corruption au fin fond de l'Afrique, par exemple, je sais pas, en Somalie ou dans ce genre de pays, on pourrait se dire bon d'accord, on comprendrait un petit peu mieux. Alors que là, c'est quand même assez difficile à comprendre.
Justement, une des questions que je voulais te poser un petit peu, c'était dans ton expérience, tu as une grosse expérience en fait du tourisme requin. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, par exemple au Fidji, comment est-ce que tu as appliqué la plongée avec les requins dans le tourisme et comment est-ce que ça a été reçu par les habitants, les Fidjiens par exemple? Est-ce qu'ils ont ressenti ça comme une agression, comme un stress, comme une richesse pour eux?
Oui, en fait, il n'y a pas vraiment de problème en général dans le Pacifique, on va dire dans le Pacifique Sud, parce que d'une part, il y a déjà depuis très très longtemps une certaine compréhension de la vie marine et de la symbiose qu'il peut y avoir entre l'homme et l'océan. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment assez bien ancré, et en particulier avec les requins, il y a un certain respect chez les requins de la part des Polynésiens et de la part des Fidjiens aussi.
Je crois que Sophie voulait dire quelque chose. Ouais, vas-y, Sophie. Ah, on t'entend pas.
J'écoutais Thomas.
Pas Sophie, pardon. Ah, je me suis trompée.
En fait,
oui, moi, je voudrais dire quelque chose juste
vas-y,
pour rebondir.
Excuse-moi, Sophie.
sur ce qu'a dit Thomas, c'est que la réflexion sur on se demande comment c'est possible dans un pays effectivement comme la France et que ça serait plus compréhensible dans d'autres types de pays. Enfin, en tout cas, ce que m'avait dit JB lors de l'interview, c'est que il y a quand même une procédure qui est en cours. Voilà, une procédure judiciaire avec des tas de
peut-être vont être rendus publics dans les semaines qui viennent. Donc voilà, je vous dis ça. J'ai pas eu pardon, j'entends plus là moi. J'ai pas eu le droit d'en dire plus quand je vais interviewer JB, mais je pense qu'il faut suivre l'actualité. Voilà, il peut y avoir des développements et y compris sur le fait que cette pêche pose problème.
Sophie, tu voulais rajouter quelque chose?
Ouais, je voulais dire que c'était tout à fait ça, et je voulais signaler à Anne que, en fait, je faisais aussi partie de ce collectif contre la pêche et que je travaillais étroitement avec JB. En effet, il y a des avocats qui se sont posés sérieusement et qui se posent sérieusement sur l'affaire. Après, il est évident qu'à La Réunion, la problématique pêche requin, c'est surtout une histoire de politique et de gros sous, parce que c'est quand même 2 millions de budget d'euros par an. Si on cumule un petit peu tout ce qui a été dépensé là, c'est presque 10 dernières années, on doit pas être loin des 20 millions d'euros hein, dans toutes les mesures diverses et variées qu'ils ont mis en place. À savoir, et ce qui est très très inquiétant, c'est que le Centre Sécurité Requin prévoit de mettre en place en octobre ou en novembre une remise à l'eau des surfeurs sur les spots de Saint-Leu. Et pour organiser cette remise à l'eau des surfeurs sur les spots de Saint-Leu, ils ont monté un nouveau protocole. Et ce protocole, en plus de la pêche de nuit qui a lieu quasiment toutes les nuits partout à La Réunion sur la côte ouest de Saint-Paul à Saint-Pierre, en réalité c'est de Sainte-Marie à Terre-Sainte, ils vont ajouter de la pêche de jour dans la zone de protection renforcée de Saint-Leu. Des jet skis, toujours dans la zone de protection renforcée, un bateau, tout ça pour mettre des mecs à l'eau avec des EPI, c'est-à-dire avec des shark shields, donc des petits appareils qui, pour faire simple, lancent des petites décharges électriques et font peur aux requins, des choses qui ont été testées et qui, ma foi, ont l'air de fonctionner. C'est quand même grave, quoi. Là, fin de l'année, ils ont prévu de poser deux jours des drumlines dans les zones de protection renforcée d'une réserve marine, qui est déjà en souffrance, ceci dit. Donc, ils ont quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influence et arrivent l'air de rien, malgré le fait qu'on soit quand même un paquet d'associations et de scientifiques à mettre en garde contre cette pêche requin, à continuer et aller vers le pire.
Parce que, en fait, à travers du légal, c'est probablement le seul moyen qu'on a, qu'il existe, en fait, pas qu'on a, de changer la situation actuelle. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Thomas? Est-ce que tu penses qu'un aspect légal, c'est probablement la meilleure solution à cette crise requin à La Réunion?
Ben, je trouve ça triste d'en arriver là. J'aimerais pouvoir dire que la simple communication et que finalement, des tables rondes à La Réunion avec des personnes compétentes et sans inviter juste les personnes dont on sait déjà les opinions permettraient de faire avancer les choses avec de l'éducation, avec pourquoi pas des publications scientifiques. Et pas par pas, quelque part, on peut réussir à démontrer de façon claire et évidente, d'une part, que la pêche de sécurisation comme elle est faite aujourd'hui à La Réunion ne fonctionne pas. Et deuxièmement, de proposer des solutions alternatives. Et des choses positives. Bon, alors il y a déjà des choses en cours parmi les différents projets qui me paraissent intéressantes.
Ouais.
Même si on a assez peu, finalement, c'est assez bizarre, on a assez peu de mises à jour régulières sur comment les choses évoluent à ce niveau-là. Mais on peut aussi en arriver à d'autres idées et à d'autres façons de régler quelque part ce problème requin. Sans pour autant faire un massacre.
Parce que il y a une crise requin à La Réunion, mais par exemple, juste à côté à Maurice, où il n'y a pas de crise, il y a aussi un potentiel pour créer un tourisme requin. Hein.
Juste rectifier un petit truc. C'est sincèrement, la crise requin, c'est le mot crise, c'est juste de la communication de pro-pêche, en fait. Parce que, en fait, depuis 2011, il n'y a pas eu plus d'accidents mortels que dans les années 90. En fait, ça reste dans une routine. Il n'y a pas plus d'accidents depuis ces 10 dernières années, quelque part, qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Il y a toujours eu des requins à La Réunion. Et il y a toujours eu des accidents à la sortie des ravines, quand l'eau était trouble, quand ce n'était pas le bon moment d'aller se baigner. Il n'y a rien eu de plus depuis 2011 par rapport à ce qui s'est passé avant, en fait, quelque part.
Mmh, bien sûr. Mais donc, il y a potentiellement, dans le futur, il pourrait y avoir une nouvelle page avec quelque chose de positif, ce que Thomas pourrait éventuellement être un des investigateurs. Qu'est-ce que tu allais nous expliquer, toi, Thomas, de ton côté ?
Ben, ce que je me suis rendu compte en travaillant dans le tourisme avec les requins, même si le tourisme n'est pas ma casquette principale, loin de là, c'est juste une petite partie de mon travail. On se rend compte en travaillant avec les mêmes requins bulldogs tous les jours qu'ils apprennent, qu'ils sont extrêmement intelligents. Et en comprenant cette intelligence, en comprenant les différences individuelles qu'il y a chez les requins, ça nous donne des idées, forcément, en comprenant les requins le mieux possible, des idées sur des solutions possibles. Une des choses que j'ai déjà proposées, dont j'ai déjà commencé à parler un petit peu, c'est d'utiliser des techniques dont on se sert, par exemple, au Fidji, pour faire venir les requins bulldogs sur des sites grâce à ce qu'on appelle ça du feeding, donc comment on dirait en français, du nourrissage, on va dire, de requins. Donc on utilise en général des têtes de thon qui sont déjà des déchets de pêche, donc on ne tue pas de poissons pour les requins, pour les faire venir au même endroit assez régulièrement. On sait maintenant, et il y a des dizaines de papiers scientifiques là-dessus, que si c'est bien fait et bien managé, il n'y a pas d'effet négatif ni sur les requins, ni sur l'écosystème, ni à aucun niveau. Ça diminue les risques puisque les requins sont nourris. Donc, vu qu'ils ont moins faim, ils prennent moins de risques, ils vont moins dans des environnements qui sont à risque pour eux, comme par exemple les vagues et les zones proches des plages. Et ils ne prennent pas de risques en attaquant ou en essayant de mordre de nouvelles proies potentielles qui ne sont pas dans leur régime alimentaire, puisqu'ils sont déjà nourris ailleurs. Donc on évite quelque part, enfin on réduit la probabilité qu'un homme et un requin soient au même endroit. Si ça arrive, on réduit la faim du requin et donc la probabilité que le requin se mette à mordre quelque chose dont il n'a pas l'habitude de mordre. Et on entraîne aussi les requins sous l'eau vraiment à comprendre et à identifier clairement l'homme, l'être humain, comme étant un allié quelque part et non pas une proie potentielle. Et on se rend compte que ces requins-là, et c'est assez facile d'aller sur Internet et de chercher des images de plongée requin pour voir à quel point les requins aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément une bonne chose non plus, mais sont comparables à des petits toutous auxquels on gratte le nez et avec lesquels les choses peuvent se passer assez bien. À mon avis, c'est un autre extrême qui n'est pas bon non plus d'aller jusqu'à toucher les requins sous l'eau. Mais en tout cas ce genre de solution est beaucoup plus respectueuse. Ça permet de faire à la fois un développement économique sur l'île, donc d'apporter du tourisme, donc de résoudre un petit peu ce problème éventuel touristique, tout en réglant quasiment complètement la soi-disant crise, je mets des guillemets autour de crise requin, même si on ne pourra jamais arriver à 0% ou en tout cas à 100% de sûreté, on redescendrait immédiatement dans des probabilités qui sont comparables à d'autres endroits du monde.
Du coup, c'est quelque chose d'envisageable sur La Réunion, pas que à La Réunion, mais aussi à l'île Maurice, non ?
Ben, en fait, un petit peu partout où il y a des requins. C'est-à-dire que n'importe quel endroit dans le monde sur lequel il y a des grands requins comme ça, on peut faire ce type d'activité. Ça se fait déjà beaucoup aux États-Unis, au Mexique, au Fidji, en Polynésie française et dans d'autres endroits dans le monde. Au Mozambique, par exemple, il y a des choses qui se font... en mer Rouge, enfin voilà, il y a le tourisme requin, c'est plus de 350 millions de dollars par an de chiffre d'affaires, donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et ça va doubler d'ici 2030 d'après les prédictions pré-Covid en tout cas. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi avec ça, donc il faut aussi faire attention. Et je pense que c'est important de vraiment réglementer ça et de mettre en place les meilleures pratiques possibles. Mais c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui est sûr si on le fait bien. Et on voit que dans tous les pays dans lesquels ce genre de pratiques sont mises en place, il n'y a aucun accident supplémentaire par rapport à avant ou par rapport à des pays qui ne le feraient pas. Et à l'inverse, comme je disais tout à l'heure, là où ça pêche, il y a beaucoup, beaucoup plus d'accidents, quoi.
Ouais. Et voire même, il y a des retombées économiques bénéfiques, quoi. Sophie, je crois que tu voulais réagir. Tu as fait un petit coucou.
Oui, je voulais réagir justement par rapport à ce que disait Thomas. C'est un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours à La Réunion. Toute la semaine, ils ont appâté toutes les nuits sur la côte ouest, hein, le Trois Bassins, vers Saint-Gilles, les temps salés. Ils ont bien appâté, toujours avec des appâts vifs. Et ben, après 4 jours d'appâtage, vendredi après-midi, vers 15h, ben, il y a un surfeur qui était à l'eau et qui a aperçu un requin. Je pense qu'au bout d'un moment, à force de poser des appâts au bout des drumlines toujours au même endroit, bah, le requin, quand il passe dans la zone, bah, il vient voir s'il n'y a pas un petit truc à becter au bout d'une ligne. Et c'est vraiment à se demander si c'est une solution qui sécurise ou qui permet tout bêtement de faire continuer un système qui rapporte. Parce que finalement, la seule réponse que le centre sécuritaire a apportée à cette observation requin, c'est de poser des drumlines le week-end sur ce spot où d'habitude ils n'en posent pas et de lancer un appel à la prudence, un énième appel à la prudence. C'est dingue, c'est complètement dingue. Sachant que déjà en 2015, les scientifiques qui avaient dressé un rapport et qui concernant le Cap Requin 1 et Cap Requin 2, donc les deux autres programmes de sécurisation requin, disaient mot pour mot. Donc en gros, c'était la conclusion du rapport, c'est le principe d'une barrière d'engins de pêche mis en œuvre continue ne correspond pas au contexte réunionnais et qui continuait sur les nombreuses visites de requins marquées aux alentours des dispositifs de pêche parfois appâtés sans qu'aucune capture n'ait eu lieu, tente à montrer que l'efficacité des drumlines est largement insuffisante pour envisager de les utiliser dans une optique de pêche de protection. Ça a été écrit dans le 5e rapport du comité scientifique sur le suivi Cap Requin. Donc, en fait, ça veut dire que depuis 2015, il y a quand même des scientifiques qui se sont penchés sur la question et qui ont alerté sur le fait que cette potentielle solution mise en avant à La Réunion n'était pas du tout adaptée, que ça ne servait à rien. D'ailleurs, ça s'avère vrai puisque ça n'a pas empêché tous ces accidents qui sont arrivés, notamment les deux de l'année dernière, quoi. Donc, ça rassure les surfeurs, ils vont à l'eau et ils pêchent des requins, les subventions tombent et il n'y a rien qui se résout, quoi.
Parce que la pêche de requins, ça ne touche pas que les surfeurs. Je pense que parmi les pro-pêches, il y a plusieurs communautés, Paloum. Qu'est-ce que tu en penses ?
Oui, bah oui, en fait, ça ne touche pas que les surfeurs. En fait, ça concerne tout le monde, en fait. Tout le monde à La Réunion ou les touristes qui ont dans l'intention d'aller à La Réunion, ça les touche dans le sens où tout le monde a envie d'aller se baigner parce qu'il y a des plages qui sont quand même magnifiques, il y a des bassins sympas. Et l'idée c'est de protéger les gens, mais le mieux ce serait peut-être de leur expliquer qu'il y a des règles pour rentrer dans l'océan et que La Réunion est une île où il y a très très peu de lagons ou des très petits lagons et que quand on est en pleine mer, évidemment, si les conditions sont pas bonnes, s'il a plu beaucoup, que l'eau est trouble, qu'il y a une grosse houle et qu'en plus il y a des déchets de pêche qui sont dans l'eau et qu'il y a des requins qui ont été observés, c'est peut-être pas le moment d'aller faire du surf ou d'aller nager. Et il y a d'ailleurs eu deux non-surfeurs dans cette décennie qui ont été victimes d'accidents requins. C'est une jeune fille en 2015 à la Ravine Mula, un site où l'eau était particulièrement dégueulasse au coucher du soleil alors qu'il avait plu dans les eaux toute la journée. Et une jeune fille en 2011 ou 2013, dans la baie de Saint-Paul qui est en pleine mer, qui n'est pas protégée par un lagon et qui est connue pour être une baie dangereuse.
Bref, c'est tout ça pour dire qu'il faudrait responsabiliser les utilisateurs plutôt.
Mais tout à fait. En fait, c'est un petit peu comme un marin, quoi. Moi, je suis marin, capitaine. Le jour où il y a 40 nœuds de vent et où il y a 3 mètres de houle, Même si j'aime beaucoup la mer et que franchement c'est mon kiff d'aller sur l'eau, je réfléchis un peu quoi. Je vais pas non plus aller me mettre en danger. On n'est pas plus fort que l'océan. Il y a un moment, faut aussi être humble et se dire aujourd'hui c'est pas possible. On va attendre que les conditions soient bonnes ou meilleures et acceptables pour pouvoir aller en profiter. Et c'est ça à mon avis. Manque à la Réunion.
J'ai une question pour toi. Est-ce que pour toi, tous les Réunionnais sont pour la pêche des requins ?
Ah ben non, du tout. Du tout, du tout. Une bonne partie des gens s'en foutent parce que il y a bien d'autres problématiques bien plus importantes à résoudre à la Réunion. Il ne faut pas l'oublier. La dernière consultation publique qui a eu lieu et qui demandait aux gens s'ils étaient d'accord pour que des drumlines soient déployés dans la zone de protection renforcée de Boucan-Canotte en 2017. Majoritairement, ce sont des Réunionnais qui ont répondu. Cette consultation publique, elle a été sans appel. 81,5% de la population a dit non.
D'accord.
Donc, c'était sans appel. Bon, ceci dit, depuis, ils se sont autorisés de pêcher dans les zones de protection renforcée en pêche post-attaque, c'est-à-dire pour aller trouver un requin et buter n'importe quel requin, là ils ont le droit d'aller dans les zones de protection renforcée. Et donc très prochainement pour leur futur programme où ils se sont autorisés eux-mêmes à aller pêcher dans la zone de protection renforcée de la réserve marine. Mais globalement les réunionnais, les citoyens réunionnais, les citoyens français sont pas du tout d'accord avec cette idée quoi.
Donc en fait c'est une toute petite minorité de la population qui est pour la pêche.
Mais tout à fait, même quand on en discute avec les gramounes, avec les anciens, même des pêcheurs, quoi, même des pêcheurs, trouve ça absurde.
Nous allons prendre un petit break, j'en profite, nous allons prendre un petit break durant lequel je vous propose d'écouter Watson de Trio.
Salut, c'est Christophe Mali du Trio. Alors là, on vous laisse et vous allez partir en mer, on vous laisse avec le morceau Watson.
Pirates des mers, insoumis volontaires, la peinture des corsaires sur tes navires en guerre, du noir sur le bleu, de la houle et du feu, Paul Watson, ton drapeau, la colère dans tes yeux, au prix de ta vie, tu es l'homme, c'est assez, sont assez d'ennemis pour te faire chavirer. Des hommes que personne n'arrête. À la barre, Paul Watson parcourt la planète. Watson navigue dans le bleu loin des terres. Watson, où le chant des baleines résonne. Watson, ce que les hommes font à la mer. Watson ne veut plus les laisser faire.
Sillonner l'Antarctique, défier le Japon, tirer les Féroé de leur vieille tradition, la crosse du berger, le trident de Neptune, l'espoir du guerrier sous un rayon de lune, se dire que les hommes ne possèdent pas la terre, en chaque espèce en somme l'humanité entière, les larmes du dauphin, le chant de la baleine,
le mépris des humains, des massacres à la chaîne. Watson navigue dans le bleu loin des terres. Watson, où le chant des baleines résonne. Watson, ce que les hommes font à la mer. Watson ne veut plus les laisser faire.
Thank you.
personne à l'abordage. Justicier éphémère a pour seul équipage l'avenir de la terre. Une vie avec le bleu, la force de la mer. Une vie avec le bleu, la force de la mer. Watson, la vie dans le bleu loin des terres. Watson, où le chant des baleines. Où le chant des baleines résonne, Watson. Ce que les hommes font à la mer, Watson. Ne veut plus les laisser faire, Watson.
Bienvenue de retour sur la Dive Bubble. Vous venez d'écouter Watson de Trio. Ça avait été un véritable scandale à La Réunion quand Trio avait joué durant un concert. Ils avaient été interpellés par les surfeurs de manière assez violente. C'était aussi le cas avec François Sarano lors de sa visite il y a quelques années. Thomas, est-ce que toi-même, tu as eu des problèmes avec la communauté pro-pêche à La Réunion ?
Pas vraiment. J'essaye, j'avoue, d'en rester le plus loin possible parce que j'ai tellement d'histoires justement comme ça qui m'arrivent aux oreilles que même si j'aimerais bien pouvoir aider... à la fois les gens et à la fois les requins sur place, ça ne m'incite pas du tout à me rapprocher de cette île, on va dire, ou même à essayer d'apporter des solutions, parce qu'il y a une telle violence autour de ce débat-là que je préfère aller voir ailleurs, entre guillemets. Après, oui, sur Internet, un petit peu, je me suis fait traiter, si ça peut être une insulte, de plongeur. Alors, je sais pas pourquoi c'est une insulte d'être un plongeur. Mais voilà, c'est... Voilà, c'est ça. Et puis bon, après, il y a d'autres mots un petit peu plus grossiers, mais ça m'atteint assez peu. J'allais dire juste avant que je pense qu'il y a vraiment un problème de fond bien au-delà de la crise requin, mais qui a la racine peut-être de ça. C'est un problème qu'on retrouve un petit peu partout. Et c'est des effets qui ont été décrits notamment par... Enfin, c'est deux effets qui se cumulent. Il y a un effet qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger, qui fait que quand on apprend un nouveau sujet, on accumule des connaissances à propos de ce sujet et tout d'un coup, on a l'impression qu'on sait tout à propos de ce sujet. Et donc, très rapidement, on se retrouve à se croire expert, alors que finalement, on en sait très peu, mais le très peu qu'on sait, ça nous donne l'impression déjà qu'on en sait beaucoup. Et c'est seulement une fois qu'on en apprend encore et encore et encore et encore et qu'on dépasse ce niveau-là qu'on retombe à un niveau de confiance qui est très, très bas. Et on se rend compte en fait qu'en fait on ne savait rien et on n'avait rien compris. Et c'est une fois qu'on a vraiment passé des années et des années à étudier quelque chose qu'on se met à vraiment savoir de quoi on parle. Donc il y a un effet comme ça qui est très pervers parce que ça légitime, enfin ça, surtout avec à l'âge de l'internet où n'importe qui peut donner son avis.
Anne, toi tu as eu l'occasion de parler avec JB durant ton podcast. Est-ce que c'est quelque chose dont il t'a parlé, enfin l'agression des pro-pêches qui est assez violente sur internet?
Oui, ben oui, il m'en a longuement parlé. Bon, c'est des choses qui, d'ailleurs, n'ont pas pu figurer forcément dans le podcast. Hein, mais en gros, il a subi assez régulièrement pour son engagement. Vous m'entendez ?
Alors, on te perd là un petit peu là. Allô.
Ah, ouais, je disais qu'effectivement, JB. M'a fait part de menaces qu'il avait reçues et même de menaces quotidiennes qu'il reçoit, effectivement, parce qu'il est très engagé dans ce combat et des menaces physiques. Donc, je pense qu'il y a de très fortes pressions qui peuvent s'instaurer sur les personnes qui ne sont pas pro-pêche.
Ouais, bah, je me rappelais notamment, il y avait un Didier Deran qui était avant JB Galve ou au même moment, qui avait essayé de faire pas mal de choses à La Réunion, qui a carrément complètement quitté la scène publique, on va dire, même si il me semble qu'il est encore actif derrière la scène.
Et il est revenu sur le devant, là.
Voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. Sophie, si tu peux nous en dire un peu plus sur le combat de Didier, d'ailleurs.
Ben, moi, je sais que j'ai eu le malheur assez rapidement, quand je suis arrivée à La Réunion, de m'engager pour la protection des requins. On m'a vite remise en place. Je travaillais à l'époque sur les plages. On m'a vite exclue de tous les recrutements. J'ai eu droit à des menaces, tout va. C'est allé très, très loin. La fois où je suis revenue en métropole faire une saison, j'ai décidé de pas y retourner parce que simplement, j'étais professionnellement en danger, personnellement en danger. Et le but de rentrer à la maison, c'est pour y être bien, c'est pas pour être menacée. Donc, j'ai fait le choix de rester en métropole pour justement pouvoir, moi, continuer mes projets sans être bloquée et pouvoir continuer ce combat sans avoir la tête dans le guidon et la trouille d'aller me baigner ou la trouille d'aller promener mon chien tous les jours et tout ça. Ils ouais, sont vraiment sûr. Très, très virulents.
Bah, disons que là où ils sont très, très, très forts, c'est qu'ils sont constamment à l'affût avec différents profils. Enfin, c'est les mêmes personnes souvent, voire même des fois se font des questions-réponses à eux-mêmes. Enfin, c'est assez psyché, quoi. C'est assez hallucinant de suivre ça. Je me rappelle notamment, François Serrano s'était vraiment fait violemment harceler sur Internet. Et puis, bah, toi, hein, dès que Sophie est en train de réagir sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social, t'as pas le temps de dire quelque chose qu'on est en train de te dire. Mais qui es-tu, Sophie? Alors que c'est toujours les mêmes intervenants, en fait. C'est toujours les mêmes personnes. Quasiment.
Ouais, ouais, mais tout à fait. En fait, globalement, ils ont tellement menacé les gens et ils sont tellement virulents qu'il y a 90% des gens qui sont contre la pêche, qui n'osent plus s'exprimer publiquement. Moi, je continue parce que je me dis que pour maintenant, bah, autant aller au bout de son combat et rien lâcher. Néanmoins, il y a encore des pages, il y en a même une, je t'en ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est dédié rien que pour me diffamer et me ridiculiser publiquement. Bon, c'est pas grave, je sais ce que je vaux, je sais que ce que je dépense c'est carrément défendable, mais c'est grave quoi, parce que ils vont jusque sur des réseaux sociaux professionnels me démonter quoi.
Ah ouais, carrément. Donc il y a vraiment.
Ouais, carrément. Loin, quoi. Et ça va loin, mais voilà, moi comme je suis loin, j'arrive à continuer mon truc. JB, bah, comme il s'en fout un peu et qu'il a pas peur, il peut continuer. Didier est revenu un peu sur le devant de la scène. Tous les autres sont obligés de se cacher. C'est-à-dire que j'ai des collègues qui sont très très impliqués et tout ça à la réunion, ils sont obligés de se cacher.
Mais
ils n'ont pas le choix.
Du coup, comment est-ce que toi, pour toi, tu vois le demain de du combat de la protection des requins à La Réunion?
Ah ben, en fait, c'est simple. Hein. C'est soit l'État continue de payer pour cette absurdité, soit l'État réfléchit et écoute enfin les scientifiques et les spécialistes, parce qu'il y a un moment donné, il faut aussi écouter les scientifiques, quoi, parce qu'ils sont quand même un paquet à s'exprimer et à dire « attention, là, ce que vous faites, c'est n'importe quoi ». Et mettre les budgets ailleurs pour réellement résoudre cette problématique. Là, on a l'impression que, en fait, l'objectif du truc, c'est de pêcher des requins. On dirait qu'ils ont oublié que le but, c'était quand même que les surfeurs puissent aller s'amuser dans la mousse.
Oui, bien sûr.
Parce que, résultat des courses, ils n'ont toujours pas le droit de surfer. C'est absurde.
Mais c'est aussi très triste pour eux. Enfin, c'est, je trouve ça triste pour tout le monde, en fait. Mais du coup, Sophie, comment est-ce qu'on peut te suivre ton combat? Est-ce que tu as une page Facebook sur laquelle on peut te suivre?
Bah, en fait, il y a une page qui regroupe pas mal. En fait, il y a une page sur Internet qui regroupe pas mal de faits et qui fait tourner les informations qui s'appelle « Contre la pêche des requins à La Réunion ».
Anne, je me permets de t'interpeller là-dessus. Tu es blogueuse, mais tu es aussi impliquée dans la vie politique, dans ta vie professionnelle. À ton avis, politiquement, comment est-ce qu'on pourrait faire pour changer la donne des requins en France? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'attirer un politicien quelconque de se joindre à cette cause et d'être actif là-dessus, quoi? Pas que sur La Réunion. En France, il y a aussi la pêche des roussettes, des requins renards tout le temps. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que
C'est une petite colle que tu me poses. En fait, bon, moi, je suis élue, mais je suis élue locale, hein, donc je ne me trimballe pas dans les couloirs de la Haute Assemblée. Bon, mais enfin, on a toujours moyen, effectivement, d'interpeller des politiques et de les sensibiliser. Il y a quand même des gens qui sont engagés aussi dans ces causes-là. Bon, c'est pas simple, et on le voit bien dans le combat qu'a mené JB. Donc, moi, je crois beaucoup dans l'action qu'il a et que vous avez, puisque Sophie, je comprends que tu es dans le dans la même mouvance. Je pense que c'est une très bonne chose d'avoir intenté les actions en justice, même si c'est long et compliqué, mais en même temps, ce sont les voies de droit et je pense que c'est ce qu'il faut utiliser. Des associations comme Sea Shepherd ont effectivement des avocats, hein, voilà, qui sont très impliqués dans tout ça et qui peuvent mettre en place des voies de droit et c'est très bien. Donc bon, évidemment, je peux qu'encourager ça en tant qu'élu. Hein, je vais pas.
Bien sûr.
Mais après. Je reconnais aussi que c'est compliqué. Moi-même, je le dis, hein, je suis pas du même camp que Nicolas Hulot, mais quand je vois que j'aime beaucoup Nicolas Hulot, quand je vois que finalement il est parti, qu'il n'est pas resté au ministère, c'est que vraiment il a du mal à faire entendre sa voix. Donc, on peut pas dire le contraire. Il y a quand même de gros lobbies. Je pense qu'à la Réunion, il y a des enjeux économiques et qu'il y a des gros lobbies. Donc, c'est en tout cas ce qu'a voulu me dire le JB et ce que dit Sophie, et je l'entends parfaitement. Donc, l'idée de Thomas de dire oui, parce que s'il y a des enjeux économiques et touristiques, peut-être c'est bien aussi de mettre en place une alternative touristique, pourquoi pas, hein, comme tu le suggérais aussi. Parce que du coup, bah, ça permet de dire, bon, bah, pour ceux qui vivent de ça, il y a aussi moyen de vivre d'autres choses. Hein, voilà. Mais on peut toujours interpeller d'abord l'échelon local. Bon, on voit bien qu'à La Réunion, ça marche absolument pas. Normalement, l'État, mais on voit bien aussi qu'à La Réunion, ça marche pas. Là, en l'occurrence, la séparation des pouvoirs, c'est que quand ça marche pas au niveau des différents échelons administratifs, il faut saisir la justice. Donc voilà, c'est ce qui a été fait. Mais j'ai pas de recette.
Anne, tu peux nous rappeler l'adresse de ton site, ta page aussi pour Dans nos bulles et
Bah c'est tout simplement dansnosbulles.com, oui, dansnosbulles.com. J'aimerais bien qu'il y ait des pros un peu comme ça et de l'environnement et de la biologie et de la plongée qui viennent, parce que c'est vrai pour l'instant je touche beaucoup de gens mais qui sont pas forcément du milieu et ça fait plaisir d'échanger avec des gens qui sont vraiment des experts dans leur domaine.
C'est un plaisir de te recevoir.
C'est gentil, Christophe. Et donc voilà, et puis surtout, rappelez ton intervention et notre partenariat, parce que sur World Shaper, donc c'est worldshaper.co, donc il y a moyen d'acheter toute la ligne de vêtements lancée par Scuba People. Donc voilà, et on rappelle que 50% des bénéfices qui sont faits sont reversés à des actions en faveur de l'environnement. Donc voilà. Alors moi j'ai commencé petit en faisant des subventions, enfin des aides à des associations locales. Mais après, si on devenait plus important, rien n'empêcherait d'aller au-delà et de s'investir dans des belles causes ailleurs. Voilà.
Tout à fait. Thomas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu
des vœux d'idéaliste, hein, Christophe?
Pardon.
Non, je disais c'est peut-être des vœux et des rêves d'idéaliste, mais ça fait rien, c'est bien.
Non, mais c'est important de rêver. Écoute, dans le meilleur des cas, c'est bien d'avoir des beaux rêves et si on arrive à les concrétiser, c'est encore mieux. Thomas, voilà. Peux-tu nous parler un peu de tes projets à venir? Est-ce qu'il y a un moyen pour nos auditeurs de te suivre et de savoir ce que tu fais? Il me semble que tu as des projets avec le Seahorse à La Réunion où tu fais régulièrement un Sea College. Bon, il me semble que là, avec le corona, c'est un peu compliqué, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu?
C'est pas à La Réunion, c'est aux Philippines.
Aux Philippines, pardon. Pas à La Réunion.
Ouais. Non, écoute, j'ai fait ça avec Seahorse pendant. On a fait ensemble déjà deux liveaboards, donc c'est des croisières de plongée pendant lesquelles j'en profite tous les jours pour donner à peu près une heure à une heure et demie. C'est pas vraiment des cours, mais on va dire des séminaires. À thème, c'est-à-dire on en a fait un qui était vraiment sur les requins pendant une dizaine de jours, donc il y a entre 10 et 15 heures de séminaires qui sont vraiment uniquement sur les requins avec différents thèmes. Et puis on en a fait un autre aussi qui était plus général sur la biologie marine, où là on plongeait, dans tous les cas on plonge entre 2, 3 voire 4 fois par jour et on en profite pour apprendre plein de choses quelque part sur la vie marine et sur ce qu'on voit sous l'eau, et ça change le regard du plongeur et ça permet au plongeur de plonger autrement et de vraiment comprendre tout ce qu'il voit sous l'eau, ce qui est assez important à mon avis, et de mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes. Quand on comprend ce fonctionnement-là, on comprend qu'on peut pas s'en extraire. Je regardais hier un des derniers documentaires Netflix de David Attenborough
qui m'a retourné. Enfin, moi, il m'a retourné. Ouais,
c'est assez classique et finalement, il y a des solutions qui sont pas si faciles que ça. Mais ça touche et on se dit qu'on devrait tous faire partie de ce combat-là et j'ai du mal à comprendre.
Personnellement, ce documentaire, il m'a beaucoup touché. Il m'a rien appris de nouveau, mais il m'a beaucoup touché parce que c'était la première fois où j'avais vraiment un film que mes enfants voyaient. Où il y avait vraiment, en fait, c'était vraiment expliqué que ben on arrive au bout du rouleau et que la nature va nous survivre, mais que nous on va pas y survivre hein, si on change rien, on change pas la direction et le cap. Et en fait, d'avoir mes enfants qui entendent ça, que ça leur est présenté devant eux, ça m'a vachement calmé. Enfin, j'ai trouvé ça assez calmant en fait. Voilà.
Juste si je peux rebondir sur ce qu'a dit Thomas, je savais pas que sur le Seedorf ils s'organisaient des choses comme ça. Je vais regarder ça avec beaucoup d'intérêt parce que j'ai fait deux croisières aux Philippines, hein, au Visayas et puis à Tubata. Alors Tubata c'était génial parce que c'était une réserve, donc c'était encore plus impressionnant. Mais si en plus il y a des séminaires où on apprend le comportement des requins et voilà, c'est génial. Je voilà. Merci Thomas, je vais me renseigner sur les dates alors.
Il y en a pas qui sont prévues pour l'instant parce que moi à la base je suis quand même scientifique, c'est vraiment là-dessus que je travaille. Le tourisme c'est plus un à côté et c'est plus pour partager des bons moments avec les amis. Là en ce moment je travaille sur des projets, enfin je travaille sur plusieurs publications scientifiques sur les requins. Je travaille sur un livre sur les requins aussi. Et je travaille aussi sur un projet sur l'innovation et sur des techniques innovantes en économie bleue et en économie verte, et en innovation bleue et en innovation verte. Donc il y a plein de belles choses potentiellement à venir. L'idée, c'est pas de partager ça forcément sur Internet, c'est de travailler dans mon coin et de faire avancer les choses. Donc voilà, c'est pas forcément facile de me trouver, mais c'est voulu aussi.
Mais il y a quelques documentaires dans lesquels on peut te retrouver. Je crois qu'ils sont gratuits sur YouTube, il me semble, non?
J'ai fait quelques apparitions en télé. Il y a un documentaire qu'on a fait avec une association qui s'appelle SEDNA, Service et Expédition pour la Découverte de la Nature. On avait fait ça vraiment à une petite équipe de 4, monté ça tout seul. On avait été financé par plein de monde. On a eu quelques partenaires et puis du financement participatif pour aller en Alaska pendant à peu près un mois à la recherche du requin saumon. Donc c'était une belle aventure. Et oui, il est trouvable gratuit. Il y a une page Facebook pour accéder au lien.
C'est bien ce qui me semblait, ouais.
Faut chercher SEDNA et le titre c'est Ecalus Wak, c'est pas facile à retenir, mais c'est requin
nu. Tu crois donner le lien? Je le mettrai dans le petit article qui va avec le podcast. Bon, Thomas, Sophie, Anne, je vous remercie d'avoir participé à ce podcast et merci à tous et à tous de nous avoir suivis. Je voudrais rappeler que cette émission est sponsorisée par squawpeople.com. N'hésitez pas à visiter le site pour découvrir le magazine. Et bien sûr, n'hésitez pas à visiter l'éco-boutique où vous pourrez retrouver les produits World Shaper sur notre site. À très bientôt pour la prochaine Diveable. Merci, au revoir.